Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
C'est une des industries qui subit la crise avec le plus de violence. Air France, Airbus, opérateurs et constructeurs de l'aéronautique, s'enfoncent doucement, tandis que les plans de relance succèdent aux plans de licenciement. Air France KLM perdrait actuellement 15 millions d'euros par jour. D'ici 2022, Air France prévoit donc la suppression de 7 500 postes. Chez Hop, la réduction des effectifs va atteindre 40%. L'avionneur Airbus, de son côté, a aussi annoncé en juin la suppression de 15 000 postes dans le monde, dont 5 000 en France. L'État s'est alors engagé à soutenir la filière à hauteur de 15 milliards d'euros, dont 7 pour Air France. 60 millions d'euros seront par exemple investis dans une nouvelle ligne de production à Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique, pour assembler des fuselages de l'A321XLR, un A320 rallongé et moins polluant que l'autre. C'est une des éclaircies du secteur. Pour le reste, on parle aussi beaucoup de Toulouse, qui depuis mars 2020 a perdu plus de 3000 emplois dans l'aéronautique. Mais on sait moins que dans les Hauts-de-France, où la filière est implantée depuis la Belle Époque, il y a 10 000 personnes concernées qui tremblent de tous leurs membres. Rien qu'à Albert, une petite ville de 9 900 habitants pas loin d'Amiens, 800 salariés sont en train de perdre leur travail. 800 emplois directs, donc au moins le double si on compte les emplois indirects. Ce qui veut dire, vous avez fait le calcul facilement, 1 600 personnes dans une ville de 9 900 habitants qui ont perdu leur travail. C'est beaucoup, un véritable désastre. Encore plus déprimant quand on sait que le seul à embaucher encore dans le coin, c'est le géant Amazon. Tout de suite donc, pourtant dans les pieds sur terre, on essaie d'aller voir sur place ce qui s'est passé au juste. Et si par hasard, la crise sanitaire n'aurait pas un peu bon dos. C'est une enquête signée Anaëlle Verzo qui commence par un tour en ville.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Qui ne connaît pas quelqu'un qui travaille à Méholt, c'est ça?
Oui, oui.
On a tous plus ou moins quelqu'un qui travaille dans nos connaissances, c'est sûr. Mon père lui-même, il y a très très longtemps, il y travaillait, donc vous voyez.
Ouais.
C'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, c'est pas évident. Hein. C'est ce qui fait travailler Albert avec le tourisme. Mais bon, en ce moment, c'est deux éléments. Hein. Qui sont touchés par la Covid, malheureusement, ouais.
Et vous, qu'est-ce que vous faites, madame?
Dans le tourisme, chômage partiel depuis le mois de mars. Ouais, c'est très dur, très très dur. Actuellement, en étant au chômage, salle fermée, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, mis à part faire ses courses. Du coup, on est incité à dépenser plus, parce qu'il n'y a que les magasins d'alimentation qui sont ouverts, donc, ouais. Puis en même temps, on voit un peu de monde. Eh oui.
La ville d'Albert vit de l'aéronautique. En arrivant à la gare, déjà, une sculpture d'avion donne le ton. Pourtant, ici, personne ne travaille chez Airbus. Tous sont des salariés de sous-traitants d'Airbus, ou plutôt de sa filiale à 100%, Stelia Aerospace, spécialisée dans la fabrication des pointes avant des avions. C'est un système en cascade, qui compte une quarantaine d'entreprises. Elle fabrique des ailes d'avion, des cockpits, des sièges. Et aujourd'hui, elle licencie dans un silence assourdissant. Parmi les sous-traitants de Stelia, il y a 3A, Assistance Aéronautique et Aérospatiale, qui fabriquent des pièces pour les avions, les assemblent et les contrôlent. Sur un total de 150 salariés, la direction de 3A est en train d'en licencier 139. Autant dire, presque tout le monde. Laetitia y travaille encore, en attendant sa lettre de licenciement fin décembre. Elle est ouvrière au service contrôle qualité. Avec ses collègues, elle a manifesté pendant 3 semaines et occupé l'usine pour essayer de sauver leurs emplois.
C'était une collègue à nous à Toulouse.
Vous avez fait combien de manifs?
On a tenu 15 jours, 3 semaines, ouais. 3 semaines de manifs, de cramer les pneus, de pas content. Voilà. Et bon, on a fait ce qu'on pouvait. On a eu la direction le dernier jour, avant de se faire déloger de devant chez Blondel.
Vous vous appelez comment?
Laetitia, contrôleuse qualité. Depuis 7 ans, je suis 3 ans, quoi.
On a assez discuté du contenu du plan, c'est que c'est de la merde. Clairement, vous savez avec quoi on va partir, avec rien, vous l'avez tous dit depuis tout à l'heure.
Julien est lui aussi ouvrier chez 3A.
La situation, elle est injuste.
Il est syndiqué à la CFDT.
C'est un peu l'objectif.
Il organise ce jour-là une réunion.
Aujourd'hui, c'était de vous dire que...
Il s'adresse à une quinzaine d'ouvriers de 3A. Tous risquent de perdre leur emploi.
Je ne peux pas vous garantir que vous ne le perdrez pas. Mais en tout cas, même si vous devez le perdre, vous le perdrez dans de bien meilleures conditions. Et de toute façon, on a annoncé ce matin qu'on ira au tribunal administratif et qu'on ira jusqu'au bout de tous les recours qu'on peut utiliser pour dénoncer ce plan catastrophique qui est justement qualifié de pire plan de l'histoire de l'aéronautique.
Ah, je dis qu'en fait, ils en ont rien à foutre de nous. Enfin, même moi, là, j'ai pas envie de bosser pour eux. J'ai plus envie de bosser pour eux, quoi.
Christophe est lui aussi un ouvrier de 3A.
Ils ont tellement mis à l'envers pendant des années que ça continue encore et encore, quoi. Et là, ils nous rappellent juste pour faire des remplacements d'une journée parce que les mecs, ils pètent un pont, ils veulent pas y rester. Donc forcément, on n'a plus envie d'y aller non plus, quoi.
Est-ce que vous êtes en CDI ou vous êtes...
Non, moi, je suis en CDI, ça fait 6 mois que je suis chez moi, en fait. Depuis le mois de mars, je suis chez moi. On m'appelle juste pour faire un remplacement d'une journée, quoi. Donc sans demander si ça va dans notre vie, si on est bien dans notre peau ou quoi, ils en ont rien à foutre, quoi. Puis on doit rien dire, on doit laisser faire. Donc enfin, je sais pas, il n'y a pas de logique là-dedans, quoi. On a su leur faire relever la crise de 2008 et derrière, en fait, ils nous assassinent. Donc, et puis, il n'y a plus d'envie, quoi.
Ça fait combien de temps?
Ça fait 8 ans que je suis embauché. Donc, 8 ans, partir avec 4000 balles, c'est bien, quoi. On n'intéresse pas non plus, quoi. On ne sait même pas ce qu'on peut retrouver comme taf. On ne sait même pas ce qui, pour eux, comment ils nous assimilent, en fait, déjà. Il n'y a même pas de nouvelles. Même pas, ils demandent si ça va, si dans notre... Ils nous envoient des mails en nous disant... appelez ce numéro là si ça va pas. On appelle et ils peuvent rien faire. Donc,
le numéro
urgence sociale.
L'humaniste.
Ouais. J'ai appelé la femme carrément, quoi. Pour savoir, je dis, je suis en galère de thunes, je suis en galère de tout. On peut faire quoi? Il n'y a pas de solution. On est en partiel, donc on perd entre 7. Enfin, moi, je perds presque 800 euros sur mon salaire, là. Entre les heures sup qu'on faisait et tout, pour pouvoir améliorer notre vie. On est habitué à un niveau de vie, on est obligé de redescendre de deux classes, quoi. Donc ouais, ça fait mal. C'est pareil, ma compagne va perdre son boulot aussi, donc on se retrouve à deux dans une galère, quoi.
Et vous avez des enfants?
Oui, j'ai une fille de 4 ans. Ah, c'est triste, hein, on est obligé de subir, quoi, c'est ça.
Et est-ce que vous avez des espoirs de retrouver du travail dans le coin?
Je pense, ouais, on n'est pas manchots, la plupart d'ici, on sait travailler, quoi. C'est travailler avec nos mains. On n'est pas bêtes, donc après, il faut qu'il y ait de l'emploi, quoi. C'est ça le problème, c'est de trouver de l'emploi. On va être obligé de prendre des trucs qu'on n'a pas envie de faire, quoi. Là, on n'a pas le choix.
Les personnes nous a rien proposé.
On parle de trucs ferroviaires, mais enfin. Ouais, on vit des formations qu'on ne peut pas faire par ici, il faut aller sur La Rochelle, c'était ça?
La Rochelle ou Colomiers.
Donc, il n'y a pas de formation dans le coin, quoi. Mais il faut aller à Tataouine en déplacement, laisser sa famille de côté encore pour aller faire une formation.
Faire la formation, c'est bien, mais si c'est pour travailler dans le sud après, faire la mutation et tout, qu'on parte, comme toi tu l'as déjà fait, c'est compliqué, le refaire, et qu'au final, après on nous dise, finalement on a pu chanter, au revoir, quoi. Au final, on a tout quitté, on a tout vendu, tout repris, enfin, une nouvelle vie à zéro, au final tu te retrouves encore à zéro, quoi. Donc ça vaut pas le coup, quoi. T'as pas le coup de tout claquer pour essayer de garder l'emploi pour partir, pour que dans un an ils nous disent finalement il y a plus de boulot, au revoir. Alors que t'as tout vendu, t'as quitté la famille, les amis, c'est pas possible.
C'est 6 mois de reclassement, donc ça veut dire que on va avoir un préavis de 2 mois payé à 100%.
Rémi est chef d'équipe chez 3A.
Et ensuite pendant 4 mois on restera encore salarié, donc payé à 70%. Mais au niveau de la prime, il applique le minimum de la loi, un quart du salaire. Et après, au bon vouloir de l'entreprise, on peut avoir une prime supralégale qui aujourd'hui est de zéro. Donc il veut rien donner en plus comme prime de départ. Donc moi, avec 12 ans d'ancienneté, je vais partir avec 7-8 000 euros quoi, de prime.
Minimum légal.
C'est le minimum. La loi, c'est ça aujourd'hui. Monsieur Macron, 2017. Je ne sais pas trop le but final, on le saura dans quelques mois, dans quelques années. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que leur but, c'est de laisser partir les gens comme ça un peu dans la merde, quoi. Et puis après, être forcé à reprendre un travail avec un salaire plus bas et puis être pris un peu au couteau sous la gorge, quoi. Et puis d'aller forcer les gens à retravailler à un faible salaire, quoi. D'avoir perdu toute notre ancienneté, nos compétences, nos acquis, nos évolutions de salaire. Enfin, on va revenir en arrière, quoi. Et notre PDG, quand il est venu nous voir il y a 3 semaines pour nous déloger, là. Donc il nous disait qu'il n'avait pas d'argent. En fait, ils ont fait un prêt à l'État qui a été accepté. Ils ont eu 15 millions d'euros. 3A.
3A
prêté par les banques pour faire le plan social. Et il y a un article qui est paru dans la presse. Alors, si vous voulez, je le lis. Alors, le PDG de 3A cumule plus d'1 million d'euros de salaire par an, 800 000 euros pour le directeur général et plus de 10 millions d'euros de dividendes ont été versés aux actionnaires de l'entreprise au cours des 4 dernières années. Donc, les actionnaires, il y en a 3. Donc, ça se fait qu'ils se sont partagés 10 millions d'euros à 3 en 4 ans. Et il vient nous dire qu'il n'a pas d'argent pour nous.
Je me suis procuré un document de la Direction générale des finances publiques qui confirme ce que vient de dire Rémi. En 2018, le président de 3A, Gilles Chauby, a perçu une rémunération de 1 039 690 euros, soit 86 640 euros par mois, sans compter ses avantages en nature, qui s'élèvent à 29 579 euros. Son adjoint, Cédric Nouvelot, a quant à lui perçu 802 781 euros en 2018, soit 66 898 euros par mois. Les salariés, eux, n'auront droit qu'à des indemnités de licenciement minimum, entre 2000 et 10 000 euros par mois, selon leur ancienneté. Au-delà de la situation dramatique de 3A, ce sont tous les sous-traitants de l'aéronautique qui sont en train de licencier. Rien que dans la Somme, Stelia Aerospace supprime 290 emplois sur 1500, provoquant un effet de cascade et des licenciements chez La Roche Industrie, Simra, Figeac et la quarantaine d'autres sous-traitants du bassin d'Albert Méholt. Mais quelles sont les causes de ce désastre économique et social? Le Covid? Seulement le Covid?
On est où exactement là, Julien?
Ben, on est sur la rocade, on sort d'Albert, on est sur la rocade, on se dirige vers Stelia. On va être très vite arrivé puisqu'ici tout est très rapide. C'est une petite ville donc.
Je retrouve Julien, l'ouvrier de chez 3A syndiqué à la CFDT, qui avait organisé la réunion.
Filiale, en fait,
il a 38 ans 2009, et une famille recomposée de 6 enfants. Et il m'emmène devant l'usine Stelia Aerospace, la filiale à 100% d'Airbus, dont dépendent tous les sous-traitants.
Par la suite, il y a eu une fusion en fait avec la Sogerma et c'est devenu Stelia Aerospace. Voilà, ici c'est un gros pôle aéronautique puisque ça devrait fêter les 100 ans prochainement. 100 ans d'histoire de l'aéronautique, ouais, sur Albert, c'est énorme. En fait, tout est sur Albert, tout est lié à l'aéronautique. Tu vois, par exemple, moi je m'occupe d'une équipe de foot qui s'appelle l'Union Sportive Ouvrière Albert Aviation Sport maintenant puisqu'il y a une fusion, mais qui est très liée forcément. Union Sportive Ouvrière Albert Aviation, ça parle quand même. On est sur l'ancien parking principal, puisque maintenant l'usine s'est développée, donc il y a d'autres parkings derrière. Sur l'ancien parking principal, où on voit qu'il y a très très peu d'activité, il y a quand même très peu de véhicules. Depuis déjà 3-4 ans, le parking est à moitié vide. On est vraiment dans une crise ici, qui est anormale, parce qu'on a un donneur d'ordre et sa maison mère qui affiche un carnet de commandes qui est plutôt confortable pour... Et certes, là, avec la crise, ils ont lissé leur production, donc on peut entendre qu'il y ait une nécessité avec la crise sanitaire. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en revanche, il y a des positions stratégiques, et notamment celles qui concernent les délocalisations, qui viennent complètement impacter le boulot des sous-traitants et qui viennent les tuer. Enfin, faut pas mesurer ces mots. Ils viennent tuer les sous-traitants, puisque ce qui était donné, ce qui permettait à d'autres entreprises de vivre, à d'autres salariés d'exercer dans l'aéronautique, ben aujourd'hui on retire tout, on met ça dans des filières à l'étranger pour.
Mais depuis quand ça a commencé ces délocalisations?
2009, on crée début janvier Aérolia. À l'époque c'était Aérolia, donc ouais, devenu Stelia. Et le fin janvier, on annonce la création d'une filiale en Tunisie. c'était prévu et c'était dans les plans d'Airbus. Parce qu'on parle souvent de Stelia, etc., etc. Moi, je veux bien, parce que c'est eux aujourd'hui notre donneur d'ordre. Mais l'idée principale, c'est si Stelia, ça a été créé, moi, c'est ce que je pense profondément et à titre purement personnel, mais c'est que ça a été créé pour ne pas entacher le nom d'Airbus. Pour pas dire Airbus, un consortium européen, délocalise. Non, c'est pas Airbus qui a délocalisé, c'est sa filiale. Donc au bout d'un moment, tous les salariés, hein, qu'ils soient chez 3A, chez Simra, chez Stelia, chez n'importe quel sous-traitant ou n'importe quelle entreprise du secteur, tous les salariés sont unanimes sur le fait que les filiales, ça a été une catastrophe pour le secteur d'Albert Méholt, que tous les investissements qui ont été faits, c'est se moquer des concitoyens, c'est se moquer de la commune, c'est se moquer de tout ce qui peut se passer, c'est se moquer des travailleurs. Et ça, c'est inacceptable. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on travaille dans l'aéronautique et du jour au lendemain, on nous dit, il y a une crise sanitaire, partez, on veut plus vous voir. Non. Et partez avec le minimum en plus. Enfin, je veux dire, tout est irrespectueux. Enfin, je suis effaré. Enfin, franchement, je viens d'avoir un bébé et je me demande dans quel monde elle vient d'arriver parce que ça fait peur, quoi. Mais j'espère que les jours seront plus roses et en tout cas, moi, je me bats pour que mes filles et mes beaux-enfants puissent vivre dans un monde meilleur.
Changer de nom pour délocaliser sans écorner son image, l'hypothèse de Julien est partagée par l'ensemble des salariés que j'ai pu rencontrer au cours de cette enquête. J'ai contacté le PDG de Stelia.
Oui, allô ?
Cédric Gauthier. Et je lui ai demandé si, selon lui, la crise actuelle avait un lien avec les délocalisations.
Je vous appelle comme convenu, je suis en compagnie de Cédric Gauthier, notre CEO.
Bonjour.
Pour lui, au contraire, les délocalisations ont été bénéfiques.
L'ensemble de la filière, y compris nos filiales à l'étranger, donc a souffert. Mais sur le phénomène des délocalisations, j'en profite pour donc expliquer exactement de quoi il s'agit, puisque la délocalisation dans l'aéronautique, c'est pas forcément ce qu'on peut avoir dans le textile. Quand nous avons un produit à faire, il y a toujours une partie, je dirais, complexe, très haut de gamme, très difficile à faire du point de vue technologique, qui est faite sur nos sites français. Et une partie beaucoup plus basique que l'on envoie sur nos sites marocains et tunisiens. Et c'est la combinaison des deux qui fait que on garde notre crédibilité technique, technologique, industrielle vis-à-vis des clients, mais qu'on peut aussi donc offrir dans un monde qui est hautement concurrentiel un produit qui est compétitif. Et c'est la combinaison des deux qui nous permet de gagner des affaires. Donc, c'est pour ça que le terme de délocalisation est très dévoyé. On utilise plutôt un terme de colocalisation, puisqu'on maintient
colocalisation
en France. Oui, colocalisation, parce que on ne délocalise pas un ensemble d'activités de France dans un pays low cost. En fait, on garde l'activité hautement technologique en France. Et on envoie l'activité, je dirais plus bas de gamme, dans les pays low cost.
Et alors j'ai vu que vous aviez gelé le projet de délocalisation au Portugal. Qu'est-ce que vous avez prévu d'y faire là-bas ?
Alors le projet n'est pas gelé. C'est que il y avait une activité qui devait partir du site de Méholt au Portugal. Et évidemment dans le contexte actuel. Où on est obligé, je dirais, de supprimer des postes en France, on n'allait pas en plus envoyer ces activités-là donc au Portugal. Donc l'envoi de cette activité-là est gelé le temps de la crise, mais par contre le projet, lui, se développe parce que son objectif premier était d'avoir en fait non pas une seule source pour de l'activité du bas de la chaîne de valeur Maroc et Tunisie, mais d'avoir aussi une source dans l'Union européenne.
« En réalité, d'après les informations du journal Les Échos, le site portugais est bien avancé. Stelia y a investi 40 millions d'euros. L'usine de 20 000 m² située à Santo Tirso, au nord-est de Porto, doit assembler les sous-ensembles d'aérostructures pour les A320 et A350. Et des salariés de 3AM ont confié qu'ils ont été envoyés sur place au Portugal pour former des ouvriers portugais. Car même si le niveau de vie est plus élevé qu'au Maghreb, les salaires portugais sont 2,5 fois plus bas qu'en France. Par exemple, au Portugal, le SMIC est à 565 euros net.
Nous, on a eu des missions. Moi, le premier, je dénonce les low cost, mais moi, le premier, hein, j'ai été obligé, dans le cadre de mon contrat de travail, d'aller ponctuellement 3 mois en Tunisie pour former sur une prestation, parce que ça faisait partie de mon contrat de travail et que j'avais pas le choix. C'était ça où j'étais viré. Moi, je sais que j'ai un collègue qui ne peut pas participer avec nous, mais qui, dans le cadre de son contrat de travail, a été dans l'obligation d'aller. Et il est actuellement au Portugal pour former des qualiticiens portugais.
Est-ce que Figeac a beaucoup délocalisé ?
Alors aujourd'hui, oui, c'est quelque chose sur lequel on est très inquiet aussi déjà depuis de nombreuses années. C'est vrai que la délocalisation se fait petit à petit, mais ça ne cesse jamais en fin de compte.
Michael, employé de Figeac, un autre sous-traitant de Stelia, a lui aussi dû former des ouvriers marocains.
En 2012, tout allait bien, c'était même le contraire. C'était vraiment le côté où on arrivait à avoir des chantiers un peu plus chaque année. Jusqu'en 2014-2015, où après on a commencé à stagner, voire à rendre des produits. Voilà, donc il y a un produit sur lequel je travaillais qui est parti donc au Maroc, chez Stelia Maroc. Donc c'est le pavillon
350.
Pavillon 350, ouais. Donc c'est toute la partie au-dessus des pilotes copilotes, dans le cockpit. Il a fallu aller sur place former et de toute façon il m'avait dit que si je voulais pas en faire partie, il y aurait forcément quelqu'un qui y aurait été quoi qu'il arrive. Il y avait déjà des postulants plus que nécessaires sur le poste. Donc quoi qu'il arrive, c'était un produit qui aurait été perdu. Ça aurait été qu'une question de mots au final, tout simplement. C'était nous sur notre ligne, on était 5. Et quand on a commencé à les former là-bas sur place, quand le dernier collègue est parti, ils étaient 12 à fabriquer la même chose que nous, avec des salaires qui sont 10 fois moins chers que les nôtres.
C'est-à-dire que vous êtes payé combien ?
Aujourd'hui, moi je suis à 1650 euros net par mois. Eux sont payés 10 fois moins, ouais, ils touchent environ une peine de 100 euros. Et aujourd'hui, de voir si peu, on se dit, bon, ben, la délocalisation, ça nous a fait beaucoup, beaucoup de mal et ça continue. Ça serait resté en France, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'en sortirait quand même, je pense, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux.
Je suis en colère. Hein. Ah oui, je suis en colère parce que qu'est-ce que nous, ça fait des années qu'on est attaché à la filière aéronautique, qu'on bosse. C'est même moi qui ai formé en tant que sous-traitant, j'ai formé Michael quand il est arrivé.
Ah oui?
C'est Figeac qui a récupéré le poste de travail sur lequel on était avec 3A et c'est comme ça que j'ai connu Michael parce qu'on s'est formé, enfin je le connaissais un peu d'avant déjà, mais c'est moi qui l'ai formé, qui lui a appris le boulot. Donc déjà il y avait une espèce de truc, mais...
On était déjà mis en concurrence quelque part déjà.
C'est ça, on était déjà en concurrence entre nous en fait, entre sous-traitants.
Et celui qui travaillait pour le moins cher, c'était celui qui aurait été le plus rentable, c'était le sous-traitant qui était le plus rentable, qui aurait pris certains produits. Dès que les produits étaient remis sur le marché, il y avait une mise... Forcément, il faisait des demandes à 3A, il faisait des demandes à Simbra, il faisait des demandes à Figeac pour savoir lesquels pouvaient faire le même produit au moins cher.
Alors que moi, je savais que j'allais pas perdre mon emploi, mais j'allais devoir aller travailler ailleurs. Et je suis parti après derrière, je suis parti en Tunisie. Et je suis parti parce que j'ai laissé mon poste de travail à Michael et à ses collègues. Donc c'est hyper cynique. Ça veut dire que je travaillais tous les jours tout en sachant que je serais plus sur mes holtes. Que j'aurais plus de boulot, que je devrais partir ailleurs. Et après, je suis parti 3 ans en Belgique, je suis parti et je suis revenu il y a que seulement quelques années. Mais et après ce poste-là, je suis parti, et c'est Figeac qui a récupéré. Et moi, j'ai dû quitter ma famille pour garder mon emploi. Donc, c'est la décision des grands patrons qui font qu'aujourd'hui on en est là. Et ces personnes-là ont une impunité, je suis désolé, mais Il n'y a rien, nous, derrière. On va partir avec 2000 balles, avec 2000, 3000 euros, peut-être grand maximum, avec 10, 15 ans. Un patron qui fait un an dans une entreprise, il part avec combien de milliards? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que nous? Qu'est-ce qu'il a apporté de plus que nous? C'est fini, c'est pas si beau. C'est un avion, c'est beau à regarder, par contre, à le faire... À le faire, c'est pas si beau et c'est pas si. C'est enfin, vu comme on est traité, c'est pas spécialement top. Hein. Les coulisses de l'aéronautique, c'est pas magnifique.
C'était Les coulisses de l'aéronautique, c'est pas magnifique, une enquête et un reportage d'Anaël Verzo réalisé par Cécile Lafont. Merci à Julien, Benoît, Michael, Laetitia, Malika, Christophe, Rémi, à tous les salariés de l'aéronautique rencontrés à Albert, ainsi qu'à Cédric Gauthier, le PDG de Stelia Aerospace. C'est Mélissa Fouss, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et François Bréus, notre stagiaire.